Carnet de région.
L'actualité des radios associatives locales en Occitanie, Pyrénées, Méditerranée.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans le carnet de région, l'actualité de la semaine en Occitanie, Pyrénées, Méditerranée. Ce journal est présenté par les radios associatives de la région. Et au sommaire cette semaine, le don de gel hydroalcoolique fait par le SDIS de l'Hérault pour les collèges du département. Nous retrouverons ce sujet en compagnie de Radio Pays d'Hérault. En Lozère, avec 48 FM, nous parlerons d'insertion par l'activité économique avec la création d'un site internet commun initié par 8 acteurs du département. Puis toujours en Lozère, nous irons ensuite à la découverte du premier drive fermier avec le conseiller départemental en charge de l'agriculture avec Radio Bartas. Avec Radio Languedoc, ensuite nous prendrons des nouvelles des scènes croisées toujours de Lozère qui ont vu leur programmation chamboulée suite au Covid-19 et au confinement. Et enfin, pour conclure ce carnet de région, nous découvrirons la nouvelle formule proposée par le FIS, c'est le Festival International des Sports Extrêmes de Montpellier, pour cette prochaine édition avec Radio Aviva. Bienvenue donc dans le carnet de région, l'actualité en Occitanie, Pyrénées, Méditerranée, présentée par les radios associatives. Après les écoles, les collèges ont donc pu rouvrir leurs portes aux élèves de 6e et 5e cette semaine. Une reprise parfois synonyme de casse-tête en termes de risques sanitaires. Et pour aider les personnels enseignants et leurs élèves, les sapeurs-pompiers de l'Hérault ont donc confectionné plus de 8000 litres de solutions hydroalcooliques. Un litre a été distribué dans chacune des classes du département. Un beau geste qui a notamment été salué par Jean-Michel Roll. Il est le principal du collège du Salagou à Clermont-l'Hérault. En marge d'une visite officielle dans son établissement scolaire, il a remercié le président du service d'incendie et de secours de l'Hérault, Kléber Mesquida, également président du département. Kléber Mesquida revient justement sur cette initiative.
Sur proposition du général Flores, qui commande le service départemental, il m'a proposé qu'avec les pharmaciens du SDIS et les médecins, ils puissent élaborer des solutions hydroalcooliques. Donc bien sûr, j'ai donné mon accord. On s'est approvisionné auprès des distilleries d'alcool. Puis les préparations ont été faites. Et comme je pressentais qu'il y aurait un problème de quantité de livraison, deux, la réaction des chefs d'établissement, c'est pas évident de trouver le gel, où est-ce qu'on va le trouver. Donc pour pouvoir permettre une rentrée en bonnes conditions, ils ont confectionné 8000 litres de solution hydroalcoolique. Et tous les établissements d'enseignement, que ce soit de la maternelle, primaire, collège, lycée, ont été dotés d'un litre de gel par classe. Ce qui a représenté plus de 8000 litres qui ont été livrés par les pompiers dans les établissements.
Le président du département a annoncé le déblocage de moyens supplémentaires pour les établissements héraultés. On l'écoute.
Ce que j'ai demandé, j'ai dit, bon, ça c'était pour vous permettre de démarrer. Parce qu'avec un litre par classe, ça peut... Bon, ça va durer un certain temps, bien sûr. Mais ensuite, nous, on dotera financièrement les établissements de moyens supplémentaires pour qu'ils puissent s'adresser à des fournisseurs locaux. Voilà. Mais dans cette première rentrée scolaire, on avait bien compris que tout le monde, en même temps, il n'aurait pas pu trouver 8000 litres. Le département est mobilisé bien avant. On a toujours essayé de réfléchir en amont. Bien sûr, on a attendu les instructions gouvernementales quant aux normes sanitaires. Et moi, j'ai toute l'équipe de la direction des collèges qui a travaillé en permanence, en liaison avec les principaux, pour pouvoir réfléchir sur l'adaptation nécessaire à faire, sur les organisations. Voilà. C'est un travail qui a été fait bien en amont. Et aujourd'hui, c'est le deuxième établissement que je visite avec M. le préfet. On a constaté que, effectivement, c'était efficient comme organisation.
Kléber Mesquida, à l'instant président du conseil départemental et du service d'incendie et de secours de l'Hérault, un sujet de Xavier Terrien de Radio Pays d'Hérault. Et après l'Hérault, prenons la direction de la Lozère avec l'insertion par l'activité économique. Les 8 acteurs de l'insertion par l'activité économique de Lozère se sont regroupés au sein d'un même site internet afin de faire connaître leurs actions sur IAE48.fr. Vous pouvez ainsi suivre leur actualité, comprendre leur fonctionnement et obtenir toutes les informations relatives à ces structures issues de l'économie sociale et solidaire. Dans les grands principes de l'économie sociale et solidaire, il s'agit pour ces structures de mettre l'économie l'économie au service de l'humain plutôt que le contraire, mettre l'humain au service de l'économie. On écoute justement Élodie Guilloton, elle est directrice de la ressourcerie La Récup.
L'idée de ce site internet, c'est d'avoir un site commun à toutes les structures d'insertion par l'activité économique du territoire de la Lozère pour faciliter la compréhension de ce que c'est que l'insertion par l'activité économique par le grand public, que chacun puisse savoir qu'est-ce qu'on fait, chacun indépendamment aussi, qu'est-ce qu'on propose comme activité, et notre socle commun qui est donc l'insertion par l'activité économique, à quel public on s'adresse. Qu'est-ce que ça veut dire insertion par l'activité économique ? Parce qu'il y a plein d'idées reçues sur ces termes-là, et de pouvoir faciliter la lisibilité et la compréhension de nos actions par le public de Lozère. Donc il y a les 8 acteurs de l'insertion par l'activité économique qui sont donc ALOES, ALOES SAP, ESL, l'ASADFCI, l'ONF, le Relais et la Récup. L'insertion par l'activité économique, en fait, c'est dans les grands principes de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire mettre l'économie au service de l'humain plutôt que l'humain au service de l'économie. Et en fait, l'économie a autant d'importance que l'aspect social et d'insertion, puisque sans l'économie, on ne peut pas proposer d'emploi à ces personnes. Et c'est en leur proposant de l'emploi qu'on peut, nous, avoir dans nos structures une activité économique. Donc c'est vraiment deux choses qui sont complètement... imbriquer l'économique et le social, il n'y en a pas un qui prime sur l'autre dans chacune de nos structures.
Et donc le site internet, on le rappelle, c'est le www.iae48.fr. C'était à l'instant un sujet de Ludovic Terol de 48FM. Et la Lozère, nous y restons justement, et ce jeudi 14 mai dernier, où s'est tenue à Mende la préfecture du département, le second drive fermier, une initiative de la Chambre d'agriculture et du département de la Lozère pour répondre aux besoins des consommateurs et des producteurs en période de confinement. On écoute Robert Aiguin, il est conseiller départemental en charge de l'agriculture sur le département de la Lozère. Il répond au micro de Radio Bartas.
Maintenant. Bonjour, et deux marrons naturels. Hein, c'est ça. Merci pour votre commande.
Alors, le drive fermé a été lancé lorsque, dans le cadre du confinement, il a été interdit de pouvoir vendre sur les marchés locaux. Donc la réflexion a été menée. Il a fallu trouver un outil qui puisse permettre justement qu'il y ait à la fois des producteurs qui se mettent sur un site et des clients qui aillent sur ce site pour pouvoir passer commande. C'est ce qui a été le plus compliqué au début. On a peut-être perdu un petit mois sur la réactivité, mais ce n'est pas dû au fait des acteurs lozériens, c'est simplement parce qu'on n'avait pas de site capable d'héberger un tel drive. Donc il a fallu le trouver, donc ça a été trouvé, ça a été imaginé. Il y a eu un très très gros travail qui a été fait par la Chambre d'agriculture sur... dans ce domaine-là, en collaboration avec les agents du département, pour en arriver juste à l'ouverture de 4 drives sur le département, Mende, Saint-Chély, Marvejols et Florac. Ben aujourd'hui, il y en a 21 de producteurs qui sont là, et il y a, je crois, 53 commandes. La semaine dernière, il y en avait un peu plus, et un producteur de moins. On a des clients qui n'étaient pas là la semaine dernière. Donc je pense qu'il faut attendre 3, 4, peut-être 5 jeudis pour que les gens aient pu goûter les produits des uns et des autres et pour pouvoir recommander dans un deuxième temps. Une fois que le client sera fidélisé à un producteur, ben je pense que ça sera très intéressant pour les deux.
On a l'occasion de voir de nouveaux clients, de rencontrer des personnes qui sont motivées, qui nous aident justement à passer ce cap difficile.
Je pense que c'est une histoire de confiance entre les producteurs et les consommateurs. Ce qu'on va s'apercevoir, c'est qu'en Lozère, on a une gamme de produits fermiers de grande qualité, très diverse, qui n'était peut-être pas très bien connue. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de le connaître et les clients vont venir, ça sera très bien. C'est une belle initiative.
Une initiative qui permet aux producteurs d'écouler leurs produits en période de crise, mais pas seulement. Ces marchés rendent accessibles à un plus grand nombre des produits frais, locaux et en direct du producteur. À l'instant, un sujet proposé par Radio Bartas. Et suite à cette épidémie, cette pandémie du Covid-19, le secteur culturel a été particulièrement touché ces dernières semaines. Justement, je vous propose à présent une entrevue de Florian Oliveres, c'est le directeur des scènes croisées de Lozère. Il a répondu aux questions de Gisèle Nakonaski, c'est la journaliste à Radio Languedoc, à propos de l'organisation et du fonctionnement de ces scènes croisées de Lozère durant cette période de confinement. On l'écoute.
Eh bien, en effet, dès le début du confinement, on a été, on a tous de suite travaillé tous en télétravail. On a continué finalement notre action et annulé les spectacles au fur et à mesure. Et puis, tout de suite, on a vu apparaître les premières questions entre annuler, reporter, et puis comment communiquer auprès du public, comment justement gérer cette situation. Un petit peu dramatique pour les compagnies, pour les artistes, pour nous aussi. Donc ça a été un petit peu un grand chamboulement au départ et puis ensuite une réorganisation de urgente, on va dire, de la vie pour ensuite, aujourd'hui, on est dans une phase plutôt de qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années, une vraie phase de questionnement avec l'intérêt de se serrer les coudes dans notre filière. Alors nous, on a à peu près 35 représentations qui ont été annulées, qui vont pour 34 d'entre elles être reportées à la saison 2021. Donc voilà, ça pose des, on va dire, un cadre. Ce qui a été dramatique, c'est que on avait justement le week-end du confinement, en tout cas le 16, un spectacle sous chapiteau avec une grande jauge et avec trois représentations complets. On avait 1800 personnes qui allaient arriver dans ce chapiteau. Et quelques heures avant le spectacle, on a dû donc annuler la représentation alors que la compagnie était là depuis 15 jours. Et c'est vrai que c'est une fin un peu brutale, mais la fin va se reconstruire au mois d'octobre, puisqu'on accueillera le chapiteau au mois d'octobre. La situation actuelle sanitaire et sociale dépasse un petit peu de loin les seuls problèmes du secteur culturel et artistique, le droit aux intermittents, le droit aux salariés de manière générale, la situation actuelle va au-delà de tout ça. Les professionnels de ce secteur, qu'ils soient salariés ou employeurs, voient arriver à grande vitesse de nouvelles réformes qui risquent d'anéantir les droits fondamentaux et les droits, notamment pour les plus précaires. Et c'est aujourd'hui ça qui nous concerne et qui nous rend attentifs, parce qu'évidemment, on a vu très rapidement que c'était les plus précaires, encore une fois, d'entre nous, même en 2020, qui a été le plus touché violemment dès le départ.
À l'instant, Florian Oliveres, directeur des scènes croisées de Lozère, il a répondu aux questions de Gisèle Nakonaski, journaliste à Radio Languedoc. Et dans l'Hérault, pour la première fois depuis 1997, date de sa création, le FIS, le Festival international des sports extrêmes, n'aura donc pas lieu dans sa forme habituelle. L'an dernier, 600 000 spectateurs ont foulé pendant 5 jours les rives du Lez à Montpellier. Cette année, crise sanitaire oblige, pas d'événements en plein air, mais la compétition aura bien lieu, elle, sous une forme 100% digitale. Le fondateur et actuel directeur du FIS, Hervé André Benoît, en explique le principe au micro de Raphaël Larcher pour Radio Aviva.
Notre objectif premier, il est de venir aussi en soutien à l'ensemble de nos riders qui viennent sur l'événement. Ils nous font confiance depuis des années et ils se retrouvent dans une difficulté quand même financière importante, puisque pas d'événement, donc pas de primes, pas de démonstration, puisque pas de petits shows ni quoi que ce soit dans le monde entier. Beaucoup d'entre eux sont obligés de repartir travailler sur un travail manuel et plus uniquement rouler. Donc notre volonté au travers de cet événement, c'était de faire qu'un événement puisse exister au mois de cet été et surtout puisse répartir sur différentes catégories, les pros, les amateurs, les filles, les juniors, l'ensemble de ces compétitions et de garantir que cet événement qu'on peut pas faire physiquement, chacun pourra le faire de son côté en réalisant une vidéo, en l'envoyant et après d'être jugé par à la fois les fans et nos juges internationaux pour avoir un classement général et donc pouvoir répartir l'ensemble des dotations qui étaient prévues pour l'édition 2020 du FIS.
Mais alors, quand et comment les spectateurs pourront assister à la compétition.
Le concept, de toute façon, il est que chaque rider va pouvoir faire une vidéo entre 1 minute et 1 minute 30. On précisera exactement, avec une première phase de qualification. Où là on attend plus de 3000 vidéos, on a près de 2000 riders et c'était aussi une opportunité pour des riders qui n'ont pas les moyens de venir faire la compétition de Montpellier, ben de la faire justement, opportunité du coup de se mettre en avant au travers de médias, au travers de sponsors qui nous suivent aussi. Et donc après ça, il y aura une première phase de qualification et une phase finale derrière où on aura un plateau télévision qui annoncera ses résultats. Ça va s'étaler sur tout l'été. Et ce qu'on souhaite vraiment au travers de cet événement, c'est toute la scène sportive internationale, malheureusement, a peu d'actualité. Et ce qu'on aimerait justement, c'est grâce à ça, permettre aux action sports de sortir du lot justement et d'avoir du contenu chaud qui vient d'être fait, pas sur un événement, mais chacun sur leur skatepark. Et du coup, permettre de starifier encore plus ces riders et de monter encore plus haut ces action sports qui, même si aujourd'hui on a atteint l'olympisme, il y a encore un chemin à faire et du coup, bah, essayer de rebondir justement et profiter de cette occasion pour apporter une énorme visibilité à nos sports.
Rendez-vous donc cet été sur les réseaux sociaux du FIS avant le plateau de remise des prix qui sera diffusé sur Eurosport, un sujet proposé par Raphaël Larcher pour Radio Aviva. C'est ainsi que se termine ce carnet de région. Un grand merci aux radios associatives qui ont participé cette semaine à son élaboration. Merci également aux radios associatives qui le diffusent. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de ce carnet de région. Bonne journée à vous.
Carnet de région.
Une réalisation des radios associatives locales en Occitanie, Pyrénées, Méditerranée.